Bienvenue à vous, vous écoutez le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS. Dans les 4 prochains épisodes, nous vous offrons un hors-série spécial. Il s'agit de 4 entretiens avec nos aînés, experts dans leur domaine, à savoir la journaliste Kumba Khan, la réalisatrice afroféministe Amandine Gay, la maîtresse de conférence en civilisation américaine Mabula Soumaoro, et enfin, le commissaire d'exposition et critique d'art noir, Chris Cyril. Pour ce 4e et dernier épisode de notre hors-série, nous vous proposons d'écouter notre entretien avec Mabula Soumaoro. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Alors, bonjour Mabula Soumaoro, merci beaucoup déjà d'être présente avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, tout au long de cette interview, on va revenir sur plusieurs aspects. D'abord sur votre parcours, ensuite on va revenir un peu sur votre parcours universitaire en particulier, et puis enfin sur des questions plus liées à l'identité. Alors, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours scolaire et universitaire ?
Parcours scolaire et universitaire, maternelle, école primaire, collège, lycée, voie générale. J'ai fait un bac à deux, à l'époque ça s'appelait à deux, aujourd'hui je pense que ça s'appellerait un bac L. À l'époque, dans les bacs A, il y avait deux spécialistes, enfin non, plusieurs, il y en avait au moins trois. Peut-être lettres et mathématiques, lettres et langues, et lettres et arts. Donc A1, A2, A3. Et donc moi, j'ai fait un bac A2, que des langues, enfin plein de langues. Voilà, c'était mon point fort. Donc j'obtiens mon baccalauréat, je veux m'inscrire en études d'anglais, et je m'inscris en anglais. J'ai grandi au Crémin-Bicêtre, dans la banlieue sud parisienne. Je suis affectée, donc banlieue sud-parisienne Val-de-Marne, 94, donc je suis affectée à l'université du Val-de-Marne, qui se trouve à Créteil, sauf que le Crémin-Bicêtre, c'est aux portes de Paris, et moi je visais Paris 3, une sorte de bonne nouvelle. Donc c'est un grand drame, mais je vais quand même, je fais mon heure de déplacement, aller et retour pour aller à Créteil, dans la fac de banlieue, et j'entame des études d'anglais, donc à partir de là, première année, ensuite au bout de la deuxième année, le DUG, qui est un diplôme qui n'existe plus. Donc au bout de deux ans, on avait un diplôme de mon temps. Ensuite licence, ensuite maîtrise, ensuite, donc maîtrise c'est le M1 aujourd'hui, DEA, diplôme d'études approfondies, c'est le M2. Ensuite je fais une thèse de doctorat, en même temps je passe mon CAPES d'anglais et j'obtiens la maîtrise de conférence. Après la soutenance de ma thèse de doctorat, et je trouve un poste à l'université en tant que maîtresse de conférence. Donc j'ai pas mal de chance. En parallèle, ça c'était la vie française, en parallèle il y a une formation universitaire qui se passe aux États-Unis.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de poursuivre aussi loin vos études, d'aller jusqu'au doctorat ?
D'aller jusqu'au doctorat, ouais. Merci pour la question. Ça va être la séance de psychanalyse. Non, je pense que j'ai continué les études jusqu'au doctorat parce que j'aimais ça. Parce que j'aimais ça et parce que je rêvais. Alors au départ, en plus ça a évolué. Au départ, quand je suis au collège et au lycée, je veux être prof d'anglais, comme les profs d'anglais que j'ai eu parce que j'étais amoureuse de la langue anglaise. Ensuite, c'est quand j'arrive à la fac que je me dis, ben non, en fait, prof d'anglais, c'est pas ça, il y a mieux. Donc je veux être enseignante chercheuse, je veux avoir du temps pour lire, pour écrire et surtout pour voyager. Je comprends aussi que les enseignants chercheurs sont mieux payés, qu'ils enseignent moins et qu'ils ont le temps pour des colloques, des conférences, des publications. Et donc pour moi, j'associe ça avec la liberté, donc j'ai envie de faire ça. On me dit que c'est pas possible très tôt, que c'est pas pour les gens comme moi, alors comme moi ça va être les banlieusards, les enfants d'immigrés, les Africains, les Noirs, les femmes, je sais pas, enfin tout ce qu'on peut décliner, les pauvres. Et moi je me dis que en fait non, j'ai envie de faire ça, et je pense que le fait de continuer le doctorat, ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir, enfin pendant longtemps je savais pas trop si déjà j'allais y arriver, mais en tout cas je pouvais voyager en toute légitimité par rapport à ma famille. C'est-à-dire que je n'allais pas voyager pour vendre des bracelets brésiliens à Mexico, j'allais voyager pour étudier, donc j'avais le droit. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que je vais aux États-Unis régulièrement, que j'y vis même, et que je suis tranquille à New York. Et après, il faudra faire la thèse à la fin. Mais ça me laisse, je pense que ça me laisse du temps. Et c'est du temps à la recherche de la liberté. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît professionnellement. Mmh. J'ai pas envie de faire juste quelque chose qui me paye. J'ai envie de faire quelque chose qui me... dans lequel je peux m'épanouir. Donc ça, ça a été très important, en fait. Rétrospectivement, évidemment, quand je le vis, c'est pas ça que je me dis dans ma tête.
Mais on se dit quoi, justement?
Je veux la paix, moi. Je veux aller à New York. Je veux être à New York.
Ouais. Ouais, je comprends. Et bah justement, vous expliquez que vous êtes fait des allers-retours avec les États-Unis. Et justement, dans vos recherches, vous vous concentrez beaucoup sur l'histoire des Afro-Américains. Mmh. Du coup, par rapport à votre livre « Triangle et Hexagone », quel a été justement votre cheminement vers les questions diasporiques européennes, mmh, et plus précisément françaises?
Mmh. Alors ça, c'est... ça a pris du temps, ce rapprochement. Effectivement, comme je vous l'avais dit, au départ, moi, je suis intéressé par les États-Unis en général. Et je suis intéressé par les États-Unis, tout comme plein de Français sont intéressés par les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. Donc, depuis, on va dire, déjà la Première Guerre mondiale, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit Hollywood, que ce soit la musique, que ce soit les arts, que ce soit toutes les cultures populaires, cette fascination pour les États-Unis, elle commence pas avec les gens de ma génération, elle perdure aussi avec les gens de votre génération, par exemple. Mais si on regarde des Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, des Dick Rivers, enfin voilà, tous les yéyés des années 60, eux aussi regardaient vers les États-Unis. La France, elle regarde les États-Unis depuis longtemps. Et la France, d'ailleurs, a été un pays allié des indépendantistes états-uniens lors de la Révolution américaine. Voilà, il y a une longue histoire depuis la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, il y a ce que j'ai dit, l'hégémonie culturelle. Donc moi, quand je grandis dans les années 80 en France, eh ben, ce que je vois à la télé, ce qui est cool, ce qui est funky, ce qui est jeune, bah, c'est les États-Unis. Et à l'intérieur de ces États-Unis, il y a les Afro-Américains, les Africains-Américains, et qui sont des Noirs, en fait. Qui sont des Noirs, mais qui ne sont pas Noirs comme moi, qui ne sont pas d'origine africaine si directe. Moi, c'est mes parents qui sont venus en France, donc je ne suis pas à plusieurs générations de l'Afrique. Je ne suis pas à plusieurs générations de la Côte d'Ivoire. Je ne suis qu'à une seule génération de l'Afrique, c'est ma mère. C'est très concret. Et donc, quand je vois des Noirs à la télé qui sont respectés, qui sont adulés parfois, tout ça, des Noirs cool, ben c'est les Noirs américains. Donc ça me permet peut-être de sortir de moi-même, d'oublier le côté noir, pas encore français parce que c'est pas comme ça que je me définis à l'époque, ivoirien, djoula, enfin tout ce qui me renvoie à ma famille et qui me renvoie à l'extérieur de la France. C'est-à-dire qu'à l'origine, mes parents sont arrivés en France à partir des années 60, et il était question de repartir en Côte d'Ivoire. À un moment, on allait repartir au pays. Donc c'est comme si on se trouvait dans un entre-deux. Et ce qui faisait que moi, quand je suis en France, et que la France en même temps, enfin tout ce qui se passe à l'extérieur de chez moi, qui est un milieu très très traditionnel, quand je sors dehors, quand je vais à l'école, quand je suis dans la cité, il y a plein de choses qui sont exotiques, il y a plein de choses que je ne connais pas, il y a plein de choses qui ne se passent absolument pas comme les choses se passent chez moi. Donc j'ai un intérêt pour la France, mais je ressens d'autant plus mon côté extérieur, mon côté étranger. Et la France me dit bien aussi que je suis une étrangère, parce que je suis africaine, parce que je suis noire, parce que je suis noire foncé, parce que je m'appelle Maboula, parce que je m'appelle Maboula Soumaro. Il y a plein de trucs qui font que tu n'es pas censé être une fille du terroir. En parallèle, comme je l'ai dit, il y a le discours familial qui dit de toute façon, on n'est pas chez nous, on n'est pas des Français, on n'est pas des Blancs, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas athées, enfin voilà. Et à un moment, on va repartir. Donc, je pense que ce que je trouve dans les États-Unis, c'est un ailleurs qui ne me concerne presque pas, ce que je crois au départ. Qui ne me concerne pas. Il y a des Noirs, ils font plein de trucs, ils dansent, ils rappent, ils chantent, ils jouent au basket, enfin voilà, toutes les choses qui m'intéressent à l'époque. Et voilà, ils sont noirs, mais c'est pas un fardeau, c'est pas un truc à porter. Et surtout, ils sont respectés, parce que j'ai bien conscience aussi de la vision qui est portée sur ma famille, sur ma communauté. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être joué là à Paris dans les années 60, 70, 80? Qu'est-ce que ça veut dire de sortir dehors comme le faisait ma mère avec des robes, avec des boubous, avec des pagnes, avec des foulards? Qu'est-ce que ça veut dire que de parler français avec un accent, et un accent d'Afrique de l'Ouest? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être musulmane? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des fêtes qui sont différentes des autres fêtes? C'était toutes ces questions. Donc en fait, quand je vais aux États-Unis, c'est une échappatoire. Je peux et je peux m'identifier d'une certaine façon à des Noirs qui ne sont pas dévalorisés. Et c'est seulement quand je vais aux États-Unis en réalité que je fais un retour sur moi-même, et de manière complètement paradoxale et surtout inattendue. C'est-à-dire que c'est quand je suis aux États-Unis que je commence à me dire, au fait, alors c'est quoi la France pour toi? C'est quoi la Côte d'Ivoire pour toi? C'est quoi être noir en France? C'est quoi être noir en Europe? Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi en région parisienne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au moment où je suis en train de commencer, ou enfin de poursuivre ma formation universitaire, et où j'étudie avec des gens qui sont spécialistes de ce qu'on appelle la diaspora noire africaine. Donc voilà, les questions, elles se posent là. Et donc, j'arrive aux réflexions sur l'Europe noire depuis les États-Unis. Mais ma formation initiale, c'est vraiment, je suis une américaniste. Je suis une américaniste agrégée. C'est ça, ma formation. Toutes les analyses qui portent sur l'Europe et sur la France hexagonale, ça vient bien plus tard.
D'accord. Justement, c'est toutes ces réflexions qui nous ont poussé à écrire ce livre, Le triangle et l'hexagone.
Oui, on peut faire court, mais le triangle et l'hexagone, il vient au bout de 20 ans. C'est à la fin d'un parcours, c'est une rétrospective en fait. Je commence à le rédiger en 2019, et donc ça veut dire qu'en 2019, ça fait 10 ans que je suis rentré en France de manière permanente, enfin bien permanente. Ce que je veux dire, c'est que je paye mes impôts en France depuis 2009. Et donc ça fait 10 ans que je suis vraiment en France. Et si je retourne à 2009, c'était en 99 que j'étais parti pour la première fois pour étudier aux États-Unis. Donc en fait, en 2019, je me dis, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est aussi une question d'âge, enfin, voilà, d'accumulation d'expérience, une question d'âge, à un moment donné de ma carrière. Et voilà, et je m'aperçois qu'en vérité, en écrivant, puisque moi j'écris à la fin, tout à la fin, je m'aperçois en écrivant qu'en fait, déjà j'avais commencé à écrire et réfléchir sur toutes ces questions dès 2016-2017. J'avais passé une année à l'étranger en tant que professeur invité, et j'avais déjà commencé à écrire un texte qui allait devenir le triangle de l'hexagone, et je ne savais pas. Et ce texte, je l'avais écrit en anglais d'ailleurs, parce que j'étais aux États-Unis pour toute l'année, parce que je faisais des présentations de bouts de texte dans des universités états-uniennes, donc je présentais en anglais. Et quand je rentre en France, la Découverte me contacte et me demande à un moment, est-ce que j'ai un texte ou est-ce que j'aimerais bien publier chez eux. Je leur dis, j'ai quelque chose qui me en tout cas auquel je pense hein, en ce moment depuis quelques temps, et je leur donne ces pages-là. Et les pages les intéressent, et ils me disent donc, moi c'est très bien, mais il faut l'écrire en français. Et là j'ai un blocage, c'est-à-dire que ça me prend du temps, j'arrive pas à écrire en français. Donc je me dis, on me dit, il faut que tu te traduises. Donc je me dis, ouais, il faut que je me traduise. J'envisage même de contacter, je sais pas, un traducteur ou une traductrice. Après, je me dis, mais non, c'est ridicule. Pourquoi? Je parle français. Et en fait, ce qui me débloque, c'est que mon éditeur Thomas Deltombe, que je remercie vivement, il me dit, essaye d'écrire en réfléchissant. Enfin, réfléchis à l'écrit, à pourquoi c'est si compliqué pour toi d'écrire en français. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a débloqué, c'est ça qui a donné l'introduction. Et c'est là que je parle de mon rapport à la langue française, qui va de pair avec mon rapport à la nation française. C'est ça qui parle aussi de mon rapport à l'anglais, de mon rapport aux États-Unis et au reste des Amériques. Et c'est ça aussi qui a fait remonter mon rapport à ma langue maternelle, qui est la langue Jula, que je ne parle pas, ou très peu. Et voilà, et donc ces questions-là, quand je dis que je les avais abordées à partir de 2016 à l'extérieur, aux États-Unis, je me suis aperçu aussi que j'ai retrouvé des dossiers dans mon ordinateur qui dataient de 2012-2013, et je parlais déjà d'afro-réalité, je parlais déjà de triangle, je parlais déjà de circulation. Donc depuis les années 2010, depuis mon retour en France, je pense peut-être fin 2009, voilà, c'est des choses que j'avais à l'esprit, mais peut-être que j'ai assumé davantage avec le triangle et l'hexagone. Donc le triangle et l'hexagone, il vient vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin d'une partie de mon parcours. Avant, ce que j'écrivais, c'était strictement universitaire. Et c'était strictement sur les Amériques. Soit côté africain-américain, soit de la diaspora, mais de la diaspora des Amériques anglophones. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Jamaïque. Ça pouvait être sur la Jamaïque, ça pouvait être sur le nationalisme noir, ça pouvait être sur le Libéria. C'était même mes sujets de mémoire en M1 et M2. La première chose que je commence à écrire sur la France, c'est en 2005 en fait, c'est par rapport à ce qui se passe en 2005, Donc, ce qu'on appelle les révoltes populaires ou les émeutes de 2005 suite à la mort brutale de Ziad Denna et de Bouna Traoré et les blessures gravissimes de Nitin Altoun qui, lui, n'est pas décédé. Voilà. Il se trouve que quand ces trois petits meurent et que ça commence à chauffer, brûler dans ces quartiers populaires, il se trouve que je suis en France. À ce moment-là, je suis en France et je commence à être obsédé par cette histoire. Je lis tout, j'écoute tout, je regarde tout et je commence à prêter davantage attention à la façon dont on parle de nous. Et là, je me considère incluse dans le nous. C'est de nous dont on parle. Les petits, ils étaient de Clichy-sous-Bois, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est la banlieue. Il y en a, ils s'appellent Traoré, c'est très proche de moi. Il y en a, donc le Traoré d'origine mauritanienne. Ziad Denna, il était d'origine tunisienne et Moutine Altoun, il est d'origine turque. Donc il y a cette proximité, il y a cette condition d'enfant immigré, il y a cette condition de banlieusard, de pauvre, de famille qui se retrouve face à l'institution et dont on sait qu'elles vont pas gagner. Enfin, c'est une galère. Et donc voilà. Quand ça se passe, j'ai une collègue que je connais, que je fréquente aux États-Unis, qui est africaine-américaine, et qui, elle, fait son terrain souvent en France et à Paris, dans la banlieue, et elle étudie beaucoup donc les quartiers populaires et la question du voile, parce que c'est juste après 2004 et la loi qui est passée contre les signes ostentatoires religieux. Donc c'est censé être toutes les religions, mais on sait que les débats qui se sont tenus autour du vote de cette loi, ça a été autour de la question musulmane. Donc donc Frika Keaton, elle travaille sur ça, je la rencontre à New York, je la revois souvent à Paris, et à un moment, après 2005, elle me dit, le printemps 2006, elle me dit, ouais, je vais à Clichy-sous-Bois, j'essaie de rencontrer des gens, j'ai des contacts, est-ce que tu veux faire du terrain avec moi? Donc on y va, on interview des gens, des associations, des collectifs qui sont sur place, des gens qui gèrent les jeunes, et puis on interroge surtout Siaka Traoré, qui est le frère aîné de Bouna Traoré. Et on les enregistre, et je travaille sur ça, et c'est la première fois en fait que je fais dans un cadre universitaire un retour sur la France et sur ma France. Et donc quand Siaka y parle, j'ai l'impression de connaître cette histoire. Je la connais cette histoire d'immigration, de grande famille, de pauvreté, et puis après de drames, de rapatriation de corps, des enterrements à l'étranger, l'entre-deux, tout ça. Et donc j'ai un article qui paraît dans une revue, elle n'est pas académique, mais elle vient d'un centre d'études africaines américaines de Harvard, et ça s'appelle Transition. Et il paraît en 2007. Donc c'est en 2007 que je publie le premier truc qui parle de la France et où je commence à parler aussi de ce que me fait cette histoire, de mon positionnement en tant que Française et Ivoirienne, expatriée aux États-Unis, que je parle de rap français, que je parle de politique. Et c'est le premier truc. Sinon avant et après d'ailleurs 2007, j'ai essentiellement publié des trucs super confidentiels, parce que super universitaire, académique, en français et en anglais. Donc 2019, c'est vraiment le triangle et l'hexagone, c'est autre chose.
C'est autre chose. Un peu l'aboutissement en fait de toutes ces années.
Alors je sais pas si c'est un aboutissement, c'est gentil de dire que c'est un aboutissement.
C'est une étape.
Et c'est, en tout cas, c'est une grande étape. Ouais. Enfin, c'est un moment où je pense que je. Ouais, peut-être que je ne me prends pas la tête. Je pense que je suis plus radical dans ma recherche de la liberté. Je pense que je me dis je fais ce que je veux et comme je veux. Parce qu'il y a moins d'enjeux, parce que j'ai déjà le doctorat, parce que j'ai déjà le poste, et que je crois toujours aux mêmes choses, et que j'ai toujours les mêmes valeurs, et que le fait de monter socialement ne m'a pas ébranlé dans ma foi sociale et politique. Donc autant dire ce que j'ai à dire, comme je veux.
Alors vous avez évoqué rapidement le rap français.
Ouais.
Justement, on a noté que dans votre livre, vous évoquez, enfin, vous faites souvent des références à la pop culture, notamment au rap. Pourquoi ce choix justement d'évoquer le rap? Si vous êtes une grande fan.
Déjà, parce que moi j'ai la pop et la culture pop et le rap. Et la culture hip-hop, j'ai grandi avec. Et pour moi, ça m'a constitué au même titre que toutes les formations, tous les types de formations universitaires que j'ai reçues. Pourquoi j'en parle? Parce que quand j'en parle à mon âge et dans ma position sociale, je suis censée endosser le rôle de la maîtresse de conférence, l'intellectuelle, qui a un poste titulaire au sein de l'université française. Et donc, je suis dans des instances et des institutions d'enseignement supérieur qui sont censées représenter l'élitisme intellectuel, en tout cas, de cette France-là. Donc ça, c'est une façon de me percevoir aujourd'hui, en 2022, ou en 2021, ou en 2012, enfin, voilà. Sauf qu'avant ça, moi, j'ai grandi dans une cité HLM du Kremlin-Bicêtre, et ça, c'est un fait. J'ai grandi pauvre, ça, c'est un fait. J'ai grandi avec une mère seule, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Voilà, donc mon expérience primaire, qui est celle qui détermine, en tout cas qui pèse beaucoup sur le reste de la vie entière, c'est celle que je viens de décrire. Et de plus, comme c'est une expérience qui m'a marquée, c'est pas une expérience qui pourrait être effacée par complètement effacée par les nouveaux accès que j'ai aujourd'hui. Et donc moi, quand j'arrive dans le monde universitaire, quand je deviens docteur, oui, je suis la première docteur de ma famille, ça c'est vrai. Je suis la première enseignante à l'université, ça c'est vrai. Je suis la première de plein de choses de ma famille. Mais mes frères et sœurs, ça reste mes frères et sœurs. Mes parents, ça reste mes parents. Et mes amis, ça reste mes amis. Et l'autre chose que je dois ajouter, c'est que quand moi j'arrive dans ce monde-là, il me paraît aujourd'hui encore, et ça peut paraître... avoir l'air, contradictoire, par paradoxe. C'est toujours pas mon monde. C'est un monde que j'ai finalement pénétré, au sein duquel je suis plus ou moins acceptée, mais j'ai l'impression de pas mener la même vie. Même si je sais très bien que je me leurre en m'imaginant meuf du terre-terre qui... non, moi je sais que ça fait au moins 15 ans. On m'a volé ma voiture dans la cité où j'ai grandi et je me suis dit ça veut dire que j'ai été expulsée de la cité. Parce que si les gens savaient que c'était ma voiture et qu'ils me prenaient comme une membre à part entière de la cité, ils n'auraient jamais volé ma... Donc si on me l'a volé, parce que je voyageais beaucoup, je n'étais pas tout le temps là, ben ça veut dire que j'en fais plus partie. Et je sais aussi que je ne gagne pas le SMIC. Je sais aussi que je voyage beaucoup, que j'ai la chance de voyager, que je reçois beaucoup d'invitations. Enfin, il y a plein de trucs qui ont changé, donc je ne peux pas faire non plus la meuf du ghetto. C'est terminé. Mais en tout cas, le monde auquel j'ai accès, mon monde professionnel, où cette élite qui est censée représenter la pensée ou les instances et institutions de l'enseignement supérieur en France, je ne suis toujours pas d'accord avec. Voilà, je ne me dis pas qu'ils ont raison, je ne me dis pas qu'ils sont mieux, je ne me dis pas qu'ils sont... tu vois, qu'il y a une supériorité, je me dis juste qu'ils sont en place et que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est tout. Donc, je n'ai pas envie de... C'est pas comme s'il y avait des valeurs ou des façons d'être que j'essayais d'aller chercher ou auxquelles j'essaierais de me conformer. C'est pas ça mon rapport. Mon rapport, c'est comment je fais pour avoir assez d'argent, pour être à l'aise, pour faire ce que je veux. Mais en tout cas, je trouve que le rap, ça défonce, c'est tout. Et en plus, moi, c'est du rap de vieille maintenant, parce que voilà, j'ai l'âge que j'ai et que je suis beaucoup moins ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se produit, mais il y a quand même une différence avec le rap de mon époque, même si je ne fais pas partie de la première génération hip-hop. À l'époque, la culture hip-hop, elle n'était pas mainstream comme elle est aujourd'hui. La culture hip-hop, c'était pour des personnes qui étaient dans le hip-hop, que ce soit la danse, que ce soit le rap, que ce soit les DJ, que ce soit les graffeurs. Ce n'était pas toutes les cités de France qui étaient dedans, c'était une partie. Et donc, toutes les scènes, il y avait des scènes de micro ouvert, où il y avait seulement quelques radios qui passaient un peu de rap. Donc, il fallait aller le chercher. Aujourd'hui, le rap, c'est à la télé, c'est à la radio. Donc, il y a un rapport différent. Il y a eu une époque où le rap, avant qu'il y ait vraiment les grosses signatures dans les grands labels et qu'il y ait les diffusions à partir de 96 sur les grandes ondes, bah, c'était un peu comme un petit cercle. C'était comme un petit cercle, c'était pour des gens. Et donc, il y avait plus de place pour l'expression de la défiance, pour l'expression de la critique et de la révolte. Donc, quand je parle de rap aujourd'hui, c'est juste pour dire que je ne veux pas me renier, en fait. Que j'ai écouté beaucoup de rap, comme j'ai écouté beaucoup de reggae, beaucoup de musique soul, enfin, beaucoup de musique noire. pas que, j'ai écouté aussi toute la variété française que tout le monde connaît, enfin je ne sais même pas qui dire, mais qui citer, mais en tout cas, peut-être que consciemment, j'ai pas envie de me présenter comme la prof évoluée qui a découvert l'opéra et qui est maintenant devenue raffinée ou sophistiquée. Ce qui m'empêche pas d'aller à l'opéra, ce qui m'empêche pas d'apprécier des choses auxquelles j'ai été moins exposée, enfin en tout cas pas jeune, mais en tout cas je lâcherai pas les trucs que je kiffe, je lâcherai pas. Voilà, donc le rap. Et en plus, pour faire la connexion avec tout ce qui m'intéresse intellectuellement, je me dis qu'en rap français, si on parle de la question de l'immigration postcoloniale en France hexagonale, et que maintenant il y a des nouveaux sujets, qu'est-ce qu'on va faire de l'assimilation, de l'intégration, enfin voilà, de toutes ces populations. En vérité, ça fait longtemps que ces histoires, elles existent, et qu'elles se déploient parce que nous existons. Et deuxièmement, quand on écoute le rap des années 80 et des années 90, tout a déjà été dit. Tout a été dit. Donc, on peut aujourd'hui faire de grandes, grandes études sociologiques, et on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans le 9-3, enfin, comme on veut. En tout cas, si on écoute du rap français, je pense qu'on a beaucoup de matières premières, c'est-à-dire tout un terreau de sources premières exploitables, et tout a été dit. Enfin, je veux dire, je sais pas que tu penses à Idéal J, le combat continue, c'était quoi, RAS, donc, qui est le RAS 3, ce qui veut dire qu'il y en a deux précédents, donc le combat continue c'est seulement 1998, mais il y a des albums avant. Et je ne veux pas aller au service militaire, je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Ça déjà, Kéry nous dit depuis 91 sur le premier album de Solar. Et il parle d'un certain rapport à la France. Donc ça a été dit, ça a été fait, c'est tout. Ça a été fait avec du style en plus. Donc voilà pourquoi je parle de rap.
Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afro-descendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afro-descendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
J'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur le milieu universitaire, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même très particulier, très fermé, dans le sens où si on ne le connaît pas, quand on y est, on peut avoir du mal à s'y adapter. Je voulais savoir ce que vous avez constaté, des différences entre le milieu universitaire français et américain, et surtout, justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ces différences?
Ah ouais, moi j'ai une double expérience qui continue, même à la rentrée, je repars un an aux États-Unis. La différence dans mon expérience personnelle entre le milieu universitaire français et le milieu universitaire états-unien, c'est qu'aux États-Unis, on fout la paix. Je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux, on me fout la paix, je suis mieux payé, je suis mieux respecté. Mais pourquoi? Parce que dans les thématiques qui m'intéressent, que ce soit la diaspora, les études africaines, américaines, en tout cas tous les mondes noirs, les cultures, l'histoire du monde noir, ou des mondes noirs, il y a des départements, c'est institutionnel, il y a des départements qui existent aux États-Unis, alors qu'en France, ça n'existe pas. C'est ça la différence. Ce qui veut dire que quand je vais aux États-Unis, il y a des espaces intellectuels, il y a des cercles intellectuels fondés par des Noirs, pas uniquement fréquentés par des Noirs, mais en tout cas fondés par des Noirs et pas uniquement fréquentés par des Noirs aujourd'hui, où on n'est pas en train de se justifier pour chaque terme qu'on utilise ou pour chaque projet. Ça, ça existe. En France, ça n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'en France, tout est compliqué. Tout est compliqué, tout est compliqué, tout est compliqué. Et c'est encore plus compliqué, à mes yeux, quand on est noir et qu'on fait des trucs sur les noirs. Parce que quand on n'est pas noir, et même carrément quand on est blanc et qu'on fait des trucs sur les personnes non blanches, on peut passer pour ouvert, curieux ou curieuse du monde et tout ça. Quand on est noir, qu'on fait des trucs sur les noirs, on est radical, on est communautariste, on est fermé d'esprit, on est raciste, enfin, c'est ça l'histoire. Donc moi, mon expérience différenciée entre les deux pays, elle est très claire. Et ça a toujours été plus facile, mais 10 fois plus facile aux États-Unis. Par contre, je ne veux pas glorifier les États-Unis, parce qu'il faut savoir que tous ces départements, Women's Studies, African American Studies, Africana Studies, Ethnic Studies, Pan-African Studies, enfin tout ça, ce sont des départements et des programmes qui ont été fondés dans la mouvance des droits civiques. Et c'est ça qu'on oublie depuis la France. C'est pas parce que les États-Unis sont plus ouverts et qu'ils sont plus sympas. C'est juste qu'à un moment, les universités ont été mises face à une pression telle qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'instaurer, il y a deux choses qu'on oublie, d'instaurer ces départements, de les financer, de les légitimer et de recruter des profs. Recruter des profs issus des communautés traditionnellement marginalisées. Concrètement, ça veut dire que des personnes non blanches sont entrées en plus grand nombre dans les universités qui n'étaient pas des universités noires, par exemple, qui existaient depuis longtemps. En France, on a du mal déjà à fonder et à financer ces départements, d'accepter ces thématiques, mais surtout on a du mal avec les corps. Donc en France, moi, enfin, ce que je constate en ce moment, même s'il y a une ouverture, c'est qu'il y a des sujets d'études qui étaient ignorés auparavant et qui maintenant font leur entrée dans l'université, mais les corps ne font toujours pas leur entrée. Et ça, c'est un problème. Donc voilà. Après, moi, mon expérience des États-Unis à l'université, c'est aussi l'expérience d'une noire de France. Si j'avais été une noire africaine, une noire de Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment j'aurais été perçue. Et au même titre, quand les Africains américains viennent à Paris, ils sont mieux reçus, ils sont mieux traités qu'aux États-Unis. Comme s'il fallait que tous les noirs du monde quittent leur pays et aillent dans un autre pays pour avoir la paix. Mais en tout cas, mon expérience, c'est ça. Enfin, les États-Unis, c'est mieux.
Mais justement, d'après vous, ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants dans les universités françaises et surtout au niveau master doctorat?
Oui, c'est ce que j'allais ajouter. C'est une question de niveau, parce que des Afro-descendants, il y en a. Mais à un moment, ils disparaissent. Et ils disparaissent, c'est juste que c'est monter gravir les échelons de l'université. Et quand on arrive au master, au doctorat, on rentre dans l'élite. Et à chaque fois qu'il y a une élite, il y a moins de personnes de couleur. C'est comme ça. Sinon, on n'aurait pas de problème de racisme.
C'est vrai.
Donc, comme la question, c'est celle de l'accès aux biens rares, ce n'est pas tout le monde qui aura accès aux biens rares. Donc, est-ce qu'on a moins accès aux biens rares quand on est une femme par rapport à un homme, quand on est une personne cis par rapport à une personne trans, quand on est une personne valide par rapport à une personne non valide, donc quand on est une personne blanche par rapport à des personnes qui sont non blanches? On peut décliner tout ça. Donc, il y en a moins, mais c'est la marque, c'est la réflexion des fonctionnements sociaux, de l'endroit où on vit. C'est une société inégalitaire, c'est une société raciste. Et puis raciste, vraiment, parce que on dirait que le racisme, c'est le terme, c'est l'épithète auquel personne, aucune société, aucun pays ne veut être associé. Donc, tout sauf raciste pour la France. Alors que le racisme, c'est très banal. Enfin, la France, c'est pas le seul pays raciste dans le monde. C'est pas ça. C'est la France, enfin, tous ses voisins, qui regardent à droite, à gauche, elle se sentira moins seule. Le racisme, c'est banal. Il y a plein de sociétés racistes. Et la France en fait partie. Donc, plus on montera dans l'échelle sociale, et moins, enfin, plus les personnes seront d'une certaine couleur. Et plus les personnes seront même d'un certain genre. C'est tout.
J'en viens justement à la question de la légitimité. Mm-hmm. Une question que vous évoquez dans votre article Noir Parole, Parole Noire, mm-hmm. qui est un extrait en fait synthétique de votre livre. Et vous reveniez notamment sur un épisode, enfin déjà sur les messages racistes que vous avez pu recevoir. Et
que je continue à
recevoir. Malheureusement de recevoir. Mm-hmm. C'est un épisode d'une fois où vous étiez sur un plateau télé face mm-hmm. à une enseignante du second degré
ouais.
et qui vous a intimé de publier votre thèse.
Ouais.
Ça vous a profondément marqué parce que c'était peut-être une injonction qui avait vocation à vous discréditer
ouais.
en tant qu'universitaire.
Ouais.
Et du coup, je voulais vous demander comment, jusqu'à maintenant, tout au long de votre carrière, vous avez géré avec cette question de la légitimité. Parce que, de manière générale, quand on est chercheur, on a déjà ces questionnements, ce syndrome entre guillemets de l'imposteur. Voilà, sur qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on a notre place ici. Mais comme vous le soulignez dans l'article, c'est d'autant plus prégnant quand on est une femme, noire et une femme musulmane de surcroît. Mmh. Comment est-ce que vous composez avec
En fait, dans le livre, je me suis fait plaisir parce que cet épisode-là, au cours d'une émission télé, et d'ailleurs, ça a été coupé au montage. Mais elle et moi, on sait que ça s'est passé. Et il y avait du monde aussi dans le public, mais ça a été coupé au montage, donc il n'y a pas d'archives. C'est pas tellement que ça m'a marqué. C'est pas que ça m'a marqué ou que ça m'a blessé. C'est juste que je me suis dit que j'allais utiliser cet exemple, cette anecdote pour faire ma démonstration. En fait. Mais sur le coup, en fait, sur le coup de au cours de l'émission, j'étais vraiment plutôt choquée. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que ça a à voir? Enfin, c'était tellement tiré par les cheveux, c'était tellement un cheveu sur la soupe que ça m'a plutôt étonnée. Mais je me disais, mais elle a le seum! Et en fait, c'est comme si je m'étais interrogée sur la profondeur de ce seum. Parce que ça avait tellement pas de sens que je me suis dit, là, on rentre dans l'irrationnel. Il n'y a plus rien de rationnel. Là, c'est du seum. C'est du seum pur. Et c'est quoi ce seum? Et c'est quoi la base raciale et la base raciste de ce seum? Ce seum, c'est qu'elle ne peut pas supporter que je lui sois supérieur. Et qu'elle s'en rend peut-être même pas compte. Parce que de me dire devant des gens, en plus qu'on est en train de s'en payer pour autre chose, c'était même pas le sujet. Mais on voit bien que justement, dans ces explosions-là, il y a vraiment, je vais me répéter, mais quelque chose de l'irrationnel. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc on parlait d'un autre sujet, et elle n'en pouvait plus, et tout ce qu'elle a trouvé, parce qu'elle ne pouvait pas me dire « tais-toi », ou elle ne pouvait pas me dire « négresse », ou « bamboula, qu'est-ce que tu fais là ?», elle a dit « publiez votre thèse ». Et donc j'insiste sur cette anecdote, parce que elle est prof en collège ou en lycée. Elle est peut-être professeure certifiée, donc titulaire du CAPES, ou agrégée, titulaire de l'agrégation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas docteur. Et ce qui est encore plus sûr, c'est qu'elle n'est pas maîtresse de conférence. Donc, normalement, c'est fin du game. On n'est pas dans la même ligue. On n'a pas à se parler, en fait. C'est comme ça. Je ne suis pas en train d'essayer d'écraser, de revendiquer. Je dis juste qu'au regard des hiérarchies sociales qui fonctionnent tous les jours et de manière banale, là, il se trouve que la hiérarchisation sociale, elle marche en ma faveur. Et pourquoi ça devient si insupportable quand c'est moi? Pourquoi, tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette anecdote, et juste pour me dire aussi que comme je sais qu'elle est assez bête pour lire mon livre, elle saura très bien que c'est d'elle dont je parle, même si je lui ai épargné le dévoilement de son nom. Mais elle sait très bien qui c'est. Donc en fait, cette irrationalité, ça aussi c'est une des manifestations, c'est une des expressions du racisme. Quand tu te retrouves dans certains endroits. Je me souviens très bien une fois de m'être retrouvée donc à la fondation, donc les Galeries Lafayette, maintenant ils ont une fondation pour l'art contemporain. Et ça s'appelle Lafayette Anticipation. Et il y a quelques années, j'avais été invitée à collaborer avec une artiste afro-descendante britannique et américaine et nigériane, ça s'appelle Danielle Dean. Donc on avait collaboré ensemble pendant l'année, et il y a un moment, à la fin de l'exposition, on avait une conversation publique. Donc je parle vraiment donc de la fondation Galerie Lafayette, Lafayette Anticipation, dans le Marais, un endroit super sophistiqué, très hype, très trendy, enfin tout ça. Et normalement, dans ces espaces-là, qui sont régis par des forces sociales qu'on connaît bien, il se passera jamais rien. C'est-à-dire, c'est pas tu vas entendre parler d'une bagarre qui s'est passée à Lafayette Anticipation, c'est pas, enfin tu vois, il y a rien dans les interactions. Et donc, à un moment, on est sur scène et je suis en train de parler et je suis en train de dire justement, qu'il faut avoir en France hexagonale, ces conversations qui sont difficiles, qui vont mettre des gens mal à l'aise, mais qu'il va falloir surmonter ce malaise, parce que cette poursuite du confort nous coûte, et coûte à ceux qui justement n'en bénéficient pas. Donc c'est pas pour respecter le confort de certains qu'on va laisser de côté les conversations par le biais de silence qui nous pèse, qui pèse à tout. Je suis en train de dire ça et il y a un mec qui pète les plombs. Il se lève et il commence à me crier dessus comme je n'ai jamais vu dans un colloque ou dans un musée ou dans... Et il me crie dessus, ça suffit, il y en a marre. On en a marre des cultural studies, je ne sais pas pourquoi il a utilisé ça. Enfin, il me crie dessus, mais à tel point que même le staff de Lafayette Anticipation vient me voir et veut savoir si tout va bien, s'il faut appeler la sécurité, enfin... Eux, ils ont peur pour moi, ils ont sincèrement peur pour moi. Moi, je me dis, je sais exactement ce qui se passe. Je sais, ce mec-là, c'est un homme blanc, je ne sais pas, la soixantaine, peut-être une soixantaine d'années, il ne pouvait pas supporter un tel discours qui émanait d'un tel corps. Et donc, à partir de là, toutes les barrières sautent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de « je me tiens bien, je bois ma coupe de champagne, j'attends le micro ». Non, il a crié sans le micro, sans rien, il y a eu cette explosion. Et c'est ces explosions-là qui m'intéressent. Ça m'est arrivé aussi à New York, lors d'un colloque il y a plusieurs années à Columbia, un colloque que j'avais fait. Et il y avait une femme comme ça, une vieille dame blanche, elle avait pété les plombs et elle était française. Et je me suis dit « mais voilà, on n'est pas à Paris là. Là, on n'est pas à Paris, donc c'est de… voilà, on avait plus… » Mais elle avait pété les plombs. Elle s'était levée, elle avait parlé sans le micro, elle avait crié, parce qu'il y a quelque chose qui la secoue. Il y a quelque chose qui la secoue, et c'est ce qui les secoue, c'est la parole qui vient de ton corps. Donc, je ne sais plus quelle était la question, mais...
C'est comment vous composez avec justement ce racisme entre femmes noires musulmanes ?
Comment on fait ? On tient bon, c'est tout.
Ouais.
C'est une galère. Je ne sais pas. Comment on fait ? On part en vacances ?
On décompresse,
on est entouré. Moi, je vais à l'étranger, j'ai la chance, je vais aux États-Unis régulièrement, donc ça me requinque. Parce que je suis validée dans ce que je fais. Puis il y a des gens aussi en France qui me valident, il y a plein de gens. On serre les dents, c'est pas facile. Tu vois, je veux pas le faire passer pour facile, c'est lourd. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est plus facile que quand j'étais étudiante, où là j'étais à la merci de l'institution. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'obtenir le diplôme. Et comment je vais faire pour obtenir le diplôme ? Sans trop me renier, sans... voilà, comment je fais pour ne pas abandonner, puisque la plupart des gens abandonnent. Moi, j'ai croisé plein de gens qui ont commencé des thèses et qui n'ont pas terminé, parce que c'était trop dur. Moi-même, j'ai fait ma thèse, et j'ai fait ma thèse sans financement, j'avais pas de bourse. Donc aujourd'hui, quand je me dis que les choses, elles avancent, parce que je rencontre plein d'étudiantes et d'étudiants qui me disent « Ah non, mais moi, si j'ai pas la bourse, je fais pas de thèse, là, je vise tel financement. » Je dis « Ah, bah, c'est bien maintenant les jeunes. » Ils ont des bourses, moi c'était sûr que j'allais pas en avoir, donc je l'ai fait sans. Donc ça c'était très dur. Aujourd'hui c'est plus, ouais, c'est pesant, c'est un peu fatigant parce que c'est tellement récurrent. Mais d'un autre côté, il y a tellement de choses en dehors de l'université. Là, aujourd'hui je fais votre vidéo. Hier j'avais un Zoom avec, c'était Cambridge. L'année prochaine je repars à Columbia. Enfin, j'ai plein de trucs à côté. En fait, ce qui m'a sauvé, je pense, c'est le fait d'avoir un ailleurs. Mon ailleurs, c'était les États-Unis. Et c'est quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai rencontré plein de profs qui sont devenus des mentors et qui m'ont dit « tu déchires ». Et qui m'ont tendu la main, qui m'ont donné des opportunités. Le premier colloque auquel j'ai participé, c'était aux États-Unis. La première fois que j'ai enseigné à l'université, c'était aux États-Unis. Alors qu'en France, j'enseignais dans le secondaire, je faisais des vacations, mais il y a près de 20 ans, voilà, il y a une prof, maintenant on est collègues et on est amis, elle m'a dit « moi j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux enseigner un cours d'été ?» Ça s'est passé aux États-Unis, et c'était une Française expatriée, donc il y a des Français à l'étranger qui font des trucs. Voilà, il y a eu la période très dure, maintenant que je suis davantage en sécurité. Oh, je vais prendre de haut. Je vais prendre de haut, même tout à l'heure, quand il était question des courriers de haine et tout ça. Je me dis, ouais, ça c'est du simple. Parce que ce que j'ai remarqué avec ces courriers, c'est qu'on me les envoyait presque exclusivement à l'université. Il y a une seule fois où j'ai reçu un courrier chez moi, à mon adresse personnelle. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait peur. Mais le reste, c'est à l'université, et c'est à chaque fois qu'il y a un passage télé.
mainstream ou un passage radio mainstream, parce qu'il y a plein de choses que je fais en dehors et depuis longtemps ils en ont rien à faire. Mais dès que ça touche à leur temple, si c'est sur Radio France, si c'est à la télévision, que ce soit France Télévisions ou BFM ou CNews, c'est la panique. Et les gens, je remarque qu'ils m'écrivent à l'université, donc ça veut dire que c'est le statut. Ils n'arrivent pas à croire que moi je suis prof. Donc ils demandent ma démission, ils demandent, enfin il y a plein de choses, mais c'est le statut. Donc ça, j'avoue que ça me fait un peu kiffer de me dire qu'il y en a qui, que ça fait chier. Et même si ça leur fait chier, même si ça les fait chier, ils n'ont pas le pouvoir de me défaire de cette place. Ils ont perdu. Donc c'est, je suis plutôt arrogante. Je ne suis pas. C'est comme la femme, la prof d'histoire géo. Je ne sais pas discuter avec toi. Toi et moi, on sait qu'on est toutes les deux dans le domaine de l'enseignement. Toi et moi, on sait. Donc c'est pas peine de faire la maligne parce qu'il y a une caméra là. Et parce que là, les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être maître de conférence ou d'être professeur certifié.
Justement, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes noirs de France qui se lanceraient dans les études supérieures, surtout au niveau doctorat, comment affronter ce milieu qui est un peu hostile?
Ben, c'est de savoir que le milieu il est hostile et de prendre leurs décisions sur cette base. Moi, je pense que quelque chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais, en fait. Et donc, si le milieu il est hostile, il faut arriver à comprendre comment on veut pénétrer ce milieu. En dépit de tout. Et on sait que c'est difficile. Moi, je suis très bien placée pour dire et pour témoigner du fait que c'est hyper difficile. Mais si c'est ce qu'ils veulent faire, au nom de quoi? Au nom de quoi il et elle ne feraient pas ça? Donc, le seul conseil, ce serait l'appel à la rébellion. C'est tout. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si on voit qu'on est le dindon de la farce, ou si on voit que, en tout cas, la catégorie ou les catégories auxquelles on est censé appartenir, bah, c'est pas nous les winners, c'est pas possible. Ça va, enfin, je veux dire, un peu, enfin, beaucoup d'amour propre, d'estime de soi, de rêve, et c'est tout. Mais si c'est ce qu'ils veulent faire, je trouve que, à la base, c'est une question de réalisation personnelle, d'épanouissement personnel. Au nom de quoi tu pourrais pas faire ce que tu as envie de faire, si c'est ce que tu veux faire. Et je trouve aussi, ça c'est l'expérience de l'âge, qu'il y a une illusion, il y a une illusion qui est possible, qui est celle de croire que on va se conformer, on va trouver un petit truc et ça va aller. Il y en a qui arrivent à vivre toute une vie comme ça, mais moi je crois aux vies intérieures, et le manque d'épanouissement, ça bouffe.
D'accord.
Ça bouffe. De l'intérieur. Donc, moi, je suis pour l'épanouissement du plus grand nombre. Ça, les gens seront plus gentils et seront plus respectueux. Ils font moins chier leur entourage, la société. Enfin, il y a tout intérêt à se respecter, à respecter son intériorité. Et pour moi, ça relève de la rébellion. Il n'y a pas moyen. C'est ce que tu veux, c'est ce qu'il faut trouver. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je ne suis pas du tout en train de dire quand on veut, on peut. Ce n'est pas ça. Il faut trouver la solution. Mais sinon, bien sûr qu'on a bien compris que normalement, si tout se passe normalement, c'est mort pour nous. On l'a compris, ça. C'est pas parce qu'on l'a compris qu'on est obligé d'accepter.
Merci. Du coup, maintenant, on va passer à la question de l'identité. Mm-hmm. Il y a différentes manières de s'identifier, mais justement, est-ce que, entre panneaux, les identités noires, afro-pennes, afro-descendantes, comment est-ce que vous définiriez ce que vous avez notre mémoire spécifique?
Ça dépend, l'identité, ça dépend où tu es, ça dépend de quel moment, ça dépend de plein de choses. Donc, pour moi, l'identité afro-péenne, c'est une nouvelle identité, enfin, c'est une nouvelle terminologie. C'est pas une terminologie avec laquelle j'ai grandi. Même quand les Atmama ou même quand les Nubians, elles l'ont un peu utilisé, mise en scène, mise en avant, mise en musique, c'était pas quelque chose que j'ai capté tout de suite. Ça m'a pris du temps, notamment vraiment les Nubians, c'est vraiment des filles que j'ai ratées, que j'ai redécouvertes après en allant à New York, parce que maintenant elles sont à New York et à un moment Hélène elle habitait à Brooklyn. Bref, on s'est rencontrés des années plus tard. Mais quand il y a eu le phénomène Nubians et quand elles ont fait leur carrière aux États-Unis, et ben vraiment aujourd'hui je regrette de ne pas avoir compris à quel point elles étaient précieuses. Mais ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'elles étaient trop à l'avant-garde, en fait. Elles étaient trop à l'avant-garde. Et nous, à Paris, on ne savait pas tellement ce qui se passait. Donc, et après, il y a les écrits d'Eonora Miano et tout ça. Donc là, je te parle des années, on va dire 2000 et 2000, 2010. Donc pour moi, l'identité afropéenne, c'est une identité comme théorique. C'est une identité, c'est un concept et c'est une terminologie qui nous permet de parler de l'expression noire européenne indigène, c'est-à-dire née en terre européenne, née sur la terre européenne. Ce qui veut dire qu'on sort de l'histoire de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend, on ne la prend pas en compte. Ça veut juste dire que pour la plupart, l'histoire de l'immigration, c'est celle de nos parents. C'est pas la nôtre. Donc il y a des gens qui sont nés à l'étranger et qui sont arrivés ici très tôt aussi. Donc ils ne sont pas nés ici, mais ils ont grandi ici. Il peut y avoir des différences au niveau de la nationalité, même s'ils ont passé la majeure partie de leur existence ici, ils ont peut-être la citoyenneté du pays dont sont originaires les parents. En tout cas, l'afropéanité, ça permet de poser oui, la question de l'indigénisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais au final si il se trouve que tu es né à Paris? C'est tout. Tu es né à Paris. Dans mon cas, ça n'efface pas la Côte d'Ivoire. Mais ça me met aussi en relation avec, je sais pas, la Guadeloupe, la Martinique, avec le Mali, avec la Mauritanie, avec le Maroc, avec plein d'autres blends, comme on dirait. Donc voilà, afropéanité, pour moi, c'est un terme technique, c'est un terme que j'utilise, que je peux utiliser dans mes travaux, mais en grandissant, c'est pas comme ça que je me définissais, en grandissant, de toute façon, puisque l'identité, ça marche de manière interne et de manière externe. Donc pour mes parents, on était Djoula, on était musulmans, on était ivoiriens, on était africains. Voilà. Pour la France, j'étais noire, j'étais africaine, j'étais une enfant d'immigré. M'autoriser moi-même à me définir, ça a pris de la réflexion et surtout des voyages et de la... comment dire, réflexion, voyage et puis la formation universitaire. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Je suis une femme noire. Je suis une femme noire d'origine africaine, je suis musulmane, mais ça tout le monde s'en fout parce que je suis pas voilée. C'est quand on me voit, c'est pas ça. Et après, ça, il y a les identités visibles et qui ont une sorte de poids social ou politique. Mais après, l'identité, enfin, je veux dire, elle est fine. Il y a plusieurs. Je peux me décrire de plein de manières différentes. Je peux me décrire de plein de manières différentes parce que je suis un être humain et que, comme tous les êtres humains, on a tous et toutes nos complexités. Oui, je pense que j'ai été plus à l'aise dernièrement avec le fait d'être noire, parce que ça calme les angoisses et les ambiguïtés par rapport à la Côte d'Ivoire de mes parents. Ça calme les sentiments de honte et de quand t'as l'impression que t'es pas vraiment ivoirienne ou que t'es pas vraiment djoula ou que tu parles pas comme ceci ou pas comme cela. Et le fait de me retrouver dans plusieurs pays du monde et notamment plusieurs pays noirs du monde, parce que moi j'aime bien les pays noirs, et de me dire que je peux passer inaperçu dans ces pays-là, c'est le fait d'être noir qui fait ça. Quel que soit, même si on peut savoir, tu peux être trahi par tes habits, par ta démarche, par ce que tu fais dans l'espace public, si tu es en train de fumer, dehors au Sénégal, c'est pas pareil que fumer dehors à Paris ou voilà. Mais en tout cas avec ton corps, il y a un ancrage, tu vois, il y a un ancrage quel que soit tous ces endroits de la diaspora. Donc ça c'est noir. Après je m'accroche aussi à africaine parce que c'est tellement le ghetto de l'humanité l'Afrique que je veux pas lâcher, je veux pas m'en distancier. Parce que c'est tellement construit négativement. Et en plus, je trouve que, voilà, même j'ai mon nom et mon prénom, enfin tout ça, c'est... Moi, je suis censé être l'Afrique sur pied, tu vois.
Alors, au sein de la MECAS, peut-être que vous le savez, mais on se revendique du panafricanisme. Ce mouvement qui est né au XVIIIe siècle et qui est riche de plusieurs courants, peut être très différent les uns des autres. Justement, je voulais savoir quel est votre rapport au panafricanisme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le panafricanisme, je l'ai étudié déjà pour commencer. Le panafricanisme, c'est ce qu'on voudrait au final. Avec ses limites, avec ses contradictions par rapport à tous les... Si on suit tous les mouvements, toutes les expressions panafricaines, panafricanistes qui ont existé à travers l'histoire. Donc la question de l'unité, l'unité africaine, il y a plusieurs façons. Il y a le rêve, mais il y a aussi la nécessité. C'est-à-dire que si on approche la chose d'un point de vue théorique, on pourrait se dire, ben moi je me le dis, de toute façon, qu'est-ce que c'est que l'Afrique ? Qu'est-ce que c'est que l'Afrique qui est le, pour moi, le seul continent qui est abordé de manière globale, si indifférenciée ? L'Afrique, à part le fait qu'on ait une masse de terre sous ses latitudes sur la planète, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas moi, de l'Égypte à l'Afrique du Sud, du Kenya à la Sierra Leone, qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi les Africains devraient s'unir ? Au nom de quoi ? Ça, c'est une vraie question. Ça veut dire que philosophiquement, c'est quoi même l'Afrique ? Et pourquoi ces injonctions à l'unité ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et d'un autre côté, la non-unité qui n'avait pas du tout, n'avait pas besoin d'exister. Tout souvent, on dit, oui, mais regardez les guerres tribales, mais regardez ce qui se passe en Afrique. Je suis désolé, la France et l'Allemagne, en moins de 100 ans, elles ont eu 3 guerres. Donc, des problèmes de voisinage, il y en a, c'est pas propre à l'Afrique. Mais on sait que la non-unité légitime, à mes yeux, historiquement, on sait ce qu'elle a coûté au continent. C'est ça la réflexion. On sait ce qu'elle a coûté au continent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer des formes de solidarité qui bénéficieraient à toutes et à tous, et au monde entier en plus. Mais c'est compliqué, hein, parce que ces inventions-là, toutes ces catégories, même que ce soit africaine, que ce soit des catégories nationales maintenant, puisqu'elles existent, il y a des États-nations, que ce soit les catégories raciales, elles sont toujours fabriquées, ça on le sait. Mais est-ce qu'on peut les fabriquer d'une manière qui ne porte pas préjudice, d'une manière qui fonctionne ? Donc, je sais pas, tu prends Kwame Nkrumah et le rêve d'une fédération des pays d'Afrique, c'est bien, sauf que les Ghanéens, ils ont quelque chose à dire de Kwame Nkrumah. Donc, pour Pan-Africa, Nkrumah y compte. Pour les Ghanéens, ils n'ont pas hésité à le retirer du pouvoir. Et les Ghanéens aussi existent. Et donc eux aussi, ils avaient un rapport particulier à Nkrumah. Tu vois, donc toujours cette question de l'équilibre à trouver entre l'analyse macro et l'analyse micro. Tu vois, je sais, le pan-africain, oui, moi je suis pour. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant à étudier. Mais j'ai pas peur de la critique du panafricanisme. Tu vois, des gens comme Garvey, j'ai mes réserves. Je trouve qu'il y a des trucs c'était bien, il y a des trucs c'était pas bien. Mais je reconnais la puissance qu'il a pu disséminer dans l'imaginaire de la diaspora. Ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que les gens achètent des stocks de la Black Star Line à travers le monde. Les gens économisent et se disent, ouais, on va financer ce projet-là. Les grandes conventions au Madison Square Garden, il y avait des blagues il y a quelques années sur Internet, parce que je crois que c'était Jay-Z qui faisait une série de concerts complets au Madison Square Garden à New York. Et donc il y avait des choses qui circulaient sur Internet qui disaient, Marcus Garvey, il a fait complet au Madison Square Garden dans les années 1919-20 et 21, que ça, faites attention à ce que vous croyez être une nouveauté, voilà. Donc en tout cas, la puissance disséminer dans les imaginaires, essayer d'imaginer un autre monde possible, une autre façon de vivre possible, ça c'est fort. Après, est-ce qu'il y avait un avenir dans un fonctionnement capitaliste et tout ça ? Enfin, voilà, même s'il est noir, même si c'est du capitalisme noir, est-ce que ça va ? Et puis, Et puis pourquoi il s'est marié avec deux copines ou deux cousines, Amé Jacques Garvey et Amé Achoud Garvey. En tout cas, il y a une embrouille. Il s'est marié avec Amé Achoud Garvey. Je crois qu'Amé Jacques était la témoin du mariage. Et après, plus tard, il divorce d'Amé Achoud et il se marie avec Amé Jacques. Ça aussi, ça compte. Tout le monde s'en fout, mais moi, je regarde ces trucs. Et puis surtout, s'il n'y a pas Amé Achoud et s'il n'y a pas Amé Jacques Garvey, on oublie Marcus Garvey. Parce que c'est Amé Jacques Garvey qui compile les archives, qui publie les papiers de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui fait vivre la mémoire. Et tout le monde parle de Marcus.
Et pour finir, j'aimerais vous parler des figures qui vous ont inspiré tout au long de votre parcours, que ce soit des artistes, des universitaires, des rappeurs. Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui vraiment étaient vos rôles modèles?
Donc je sais que par exemple, la première fois que je lis... Quand je lis Chinua Achebe, par exemple, Le Monde S'effondre, non, j'ai commencé par Arrow of God, je ne sais pas le titre en français. J'étais encore en France, j'étais à Créteil à la fac, je devais être en première année ou deuxième année. C'était la première fois que je lisais un roman africain. Et j'avais l'impression qu'il y avait une familiarité, une familiarité que je n'avais jamais vue à l'écrit et que je n'avais jamais vue dans un écrit respecté, enseigné, étudié et tout ça. Donc ça m'a titillé. Et après Arrow of God, j'ai lu pas mal de... Things Fall Apart, Le Monde S'effondre, Men of the People, enfin j'ai lu plein de trucs, au début c'était Chinua Achebe. Mais je sais pas ce que je pensais de lui, mais en tout cas ses livres, ils étaient importants. Quand je lis le 4e siècle d'Édouard Glissant, qui est une sorte de réflexion, un roman poétique, et qui est une réflexion sur la chronologie de la Martinique, je suis complètement... ça c'est vraiment un grand voyage. Je me dis, mais on peut écrire différemment, on fait ce qu'on veut. C'est un peu comme 100 ans de solitude. C'est les livres qui te... Tu te dis, des queues de cochon, enfin, qu'est-ce que c'est? Il y a une famille où ils ont des queues de cochon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a tout ce que les gens appellent, la théorie littéraire appelle le réalisme magique. Sauf que les auteurs disent, c'est pas de la magie, en tout cas, c'est notre vie. Ça, c'est, 100 ans de solitude. Le 4e siècle, parce que c'est beau, c'est complet. J'aime la complexité. Enfin, un truc que tu connais pas, qui m'attire parce que je ne connais pas, parce que je comprends pas tout. Quand je lis le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, la première fois, je comprends rien, je sais même pas de quoi il parle. Je me dis, mais je comprends pas pourquoi on nous parle de lui, c'est qui, je ne comprends pas. Et pourtant, le cahier, depuis que je l'ai lu, c'était dans le cours de Glissant. À chaque fois que je le relis jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est de la beauté en barre. C'est incroyable. Mais la première fois que je l'ai lu, puisque justement, je n'avais pas la formation, je n'avais pas les connaissances, je n'ai rien compris. Vraiment, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et maintenant, plus je le relis et plus je me dis, mais c'est complètement fou. Marie Scondé, le premier livre que je lis d'elle, ce n'est pas un roman. Ça s'appelle, c'est une étude d'une sorte de... d'anthropologie qui s'appelle la civilisation du Bossal. Mais après, quand je lis c'est le choc. C'est-à-dire que là, je retrouve des mots en bambara. Donc, le djula, c'est une variation du bambara. J'ai l'impression qu'elle m'explique ma famille, des dynamiques familiales. J'ai l'impression qu'elle m'explique la figure de ma mère et son rôle au sein de la famille, qui pour moi était un grand mystère. Et j'aime bien, chez Marie Scondé, j'aime bien le mouvement de ces livres. Et il y a toujours il y a des déplacements, il y a plein de territoires différents. Et puis elle a des personnages qui sont des fois trop drôles. Et elle est trop insolente. Elle est trop arrogante. Enfin, non, pas arrogante, elle est insolente et j'aime bien ça, son irrévérence. Son premier roman, c'est En attendant le bonheur, avec le personnage principal qui s'appelle Véronica Mercier. Et Véronica Mercier, t'as envie de la baffer. C'est l'histoire d'une Guadeloupéenne qui va à un moment dans un pays, on comprend que c'est la Guinée de Sékou Touré. Et en fait, c'est comme si tu espérais le retour en Afrique, la reconnexion d'une Guadeloupéenne. Et elle, c'est comme si elle disait « Ah, regarde, ils font ça, Et je me dis, c'est ça son premier roman. Et elle s'est autorisée ça. Et à l'époque, les gens l'ont mal pris en disant comme si elle ne respectait pas. Alors que justement, elle le fait par amour, elle le fait par familiarité. Je dirais ce que je veux de l'Afrique parce que je suis aussi africaine. Je suis aussi, c'est ça qu'elle dit. Mais je me dis, commencer sa carrière littéraire sur un truc comme ça, il fallait oser. Donc j'aime bien sa personnalité. Pareil pour Toni Morrison qui fait dans L'œil le plus bleu, The Bluest Eye, c'est son premier roman. Et elle, c'est son premier roman, elle arrive avec une histoire d'inceste. Et il n'y a pas que la question des blancs, du racisme, non, elle parle d'une famille. Elle va te dire, là, il y a un problème. Et elle le dit. Donc, est-ce que c'est trahir la communauté, pas être, enfin, voilà. Mais elle dit, non, pour moi, encore une fois, je trouve, il y a assez d'amour pour dire, moi, je suis de là, c'est ma communauté, j'en parlerai comme j'en voudrais. Et surtout, je m'éloignerai peut-être où j'échapperai au regard blanc. J'en ai rien à faire de savoir pourquoi de quelle manière on va être perçu. Je m'en fous de comment on va nous regarder. Moi, je nous parle à nous-mêmes. Et ça suffit. Donc ça, je trouve qu'elle ait commencé par ça, sans compter le fait qu'elle ait été éditrice à la base, et qu'elle ait publié, cherché des manuscrits, et qu'elle se soit battue pour des manuscrits, ça, je trouve ça fort. Un autre roman qui se passe à l'université, ça m'a fait rire parce qu'elle a bien compris ce qui se passait dans le cadre universitaire. Mais en tout cas, c'est, jusqu'à aujourd'hui, je suis ce qu'a fait Zadie Smith parce que pour moi, elle fait partie de ma génération. Et c'est une fille de Londres qui parle de Londres et qui connaît Londres, qui parle de Londres de l'intérieur. En faisant des généalogies, parce qu'il y a des personnages qui viennent d'ailleurs et tout ça. Elle imagine la vie à la Jamaïque, par exemple, dans les personnages. La meuf, elle se positionne comme indigène. Et ça, je trouve que jusqu'à aujourd'hui, ça commence un peu. Mais je vois rarement dans la fiction française. Moi, je rêve d'un roman français qui va décrire tout ça de manière intérieure, sans honte et à l'abri du regard blanc. Et donc, qui va sortir tous les dos, mais qui va faire ça bien. Moi, c'est ça mon rêve. J'aimerais bien. Il y a des trucs qui. Quand j'ai lu La Discrétion, par exemple, de Faïza Again, je trouve qu'il y avait un. Il y a un truc d'un peu de ça commence. Même si elle avait fait des trucs avant, mais c'était perçu et présenté comme c'est de la banlieue. Mais je trouve que dans La Discrétion, elle aborde le décalage avec les parents, mais sans. C'est pas seulement la question des parents et après je vais chez les blancs et je deviens française. C'est comment je fais, je suis une rebeu du terre-terre et maintenant comment je fais pour allier les deux. Où elle a un chapitre intéressant où c'est une fille, une jeune fille rebeu qui a un date avec un mec et je crois que ça se passe mal. Et enfin ça se passe pas super tu vois, mais bon elle te dit déjà. Elle te dit, bah, les meufs, elles ont une vie, elles sortent, elles sont pas, je sais pas moi, que battues par leur frère ou leur père, elles sont pas dans l'enfer des tournantes, bah, elles ont une vie, elles cherchent l'amour. Et donc, cette fille-là qui a un rendez-vous avec un mec rebeu aussi, elle dit, pour une fois que je plaisais à un rebeu. Donc, pour moi, ça, j'avais jamais lu ça avant, c'est-à-dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc de, même dans le couple, qu'est-ce qui devient le plus désirable? Qu'est-ce qu'on fait si on est, par exemple, on est noir qu'avec un Renoir? Ou, je sais pas, moi, t'es Sénégalais avec un Sénégalais? Ou pas? Ou t'es que avec des Blancs? Ou tu peux jamais être avec des Noirs? Ou t'es Robeux, tu peux jamais être avec des Robeux? Ben, je trouve que ça, on l'a pas dit dans ce que ça soulève. Après, il y a des. Ouais, Honora Miano, c'est intéressant ce qu'elle a fait, mais moi, j'attends encore mon White Teeth. J'attends encore mon roman. Je sais pas, un truc qui va englober toutes les facettes de les bons et les mauvais côtés. Un peu comme quand Arthur Jaffa il fait sa vidéo là, Love is the message is death. Je trouve que la vidéo elle est incroyable de beauté et justement parce qu'elle montre le meilleur et le pire. Elle montre tout. Et c'est ça qui fait le. Et ça, c'est pour la communauté africaine, américaine. Mais ouais, je sais pas, qui est-ce que je peux dire en musique oh, y a plein de... Je sais pas. J'ai écouté beaucoup de rap, mais ça m'a pas fait devenir rappeuse. Mais je trouve que. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. J'écoute beaucoup de reggae. J'écoute l'un des plus anciens albums de Björk, c'est Hegemonic, que j'adore. J'ai une passion pour Björk. Et j'adore le fait qu'elle vienne de l'Islande. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en Islande avec 6 mois de jour et 6 mois de nuit, et des geysers, et des volcans, et des pêcheurs qui vont dire qu'un jour ils ont assisté à la naissance d'un îlot. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, du feu qui sortait de la mer. Eux, ils sont repartis sur leur côte, ils ont flippé. Au bout d'une semaine, il y avait un îlot. Donc c'est une terre qui est encore jeune, apparemment, géologiquement. Et t'as cette fille qui chante comme une malade et elle vient de là, donc qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs. Il y a le compas, il y a les musiques caribéennes, il y a le zouk, il y a la salade, je sais pas. Il y a plein de trucs.
Merci beaucoup, Maboula.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté le Maki. Le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour continuer la conversation, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #LeMaki.